Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et ce matin, nous allons regarder le psaume 56. Psaume 56. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, sur colombe des térébintes lointains, hymne de David. Lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Car c'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Et jusque-là, la parole de Dieu. Que peuvent me faire des hommes? C'est la question que l'on retrouve dans les versets 5 et 12. Si on cherche une réponse dans les journaux, on découvre que les hommes peuvent faire des choses terribles. Les hommes peuvent utiliser leur corps pour faire exploser des bombes dans des lieux publics. Des dirigeants d'entreprise peuvent mentir aux investisseurs sur la valeur de leur entreprise. Des jeunes peuvent vandaliser des lieux publics. Des personnes peuvent battre à mort les plus faibles. Qu'est-ce que les hommes, que peuvent faire les hommes, que peuvent faire la chair? Les humains peuvent nous tuer. Ils peuvent trahir notre confiance, ils peuvent voler notre argent, voler nos rêves, arracher notre cœur. Et sachant cela, le psalmiste dit franchement qu'il a peur. Et souvent, nous aussi, dans notre vie, on a peur. L'auteur de ce psaume, il nous a dit au début, est David, le roi, un des grands personnages de la Bible. Il a écrit ce psaume à une époque où il était vulnérable, était faible, il était effrayé par les poursuivants qui cherchaient à lui ôter la vie. Mais dans ce psaume, et j'espère que vous l'avez vu à la lecture de ce psaume, David va combattre sa peur avec la foi. Et il nous laisse un exemple, il nous enseigne à faire de même. Il y a deux voix dans ce psaume qui appellent d'un côté et de l'autre, de la même manière que dans nos cœurs, il y a la peur et la foi. La voix de la peur, on entend au début du psaume, versets 2 et 3, « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. » Puis on retrouve cela dans les versets 6 à 7, « Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. » Mais à cette première voix s'ajoute une autre voix, la voix de la foi. qui reprend ce grand refrain, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Que peuvent me faire des hommes? Premier grand point, la voix de la peur. C'est cette voix qu'on entend dans les versets que nous venons de lire, les versets 2, 3 et 6 et 7. Les ennemis de David veulent ruiner sa réputation et ils veulent aller jusqu'à mettre fin à sa même vie, à sa vie même. Le verset 1 nous dit que ce psaume a été composé à l'un des moments où David a été au plus bas dans sa vie, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire. Après que David ait tué le géant Goliath, il a rapidement atteint la gloire, le prestige dans le royaume, et cela a amené le roi Saül à envier David en tant que rival. Même si David était complètement loyal, l'animosité du roi Saül a forcé le jeune David à fuir devant le roi. Et on peut lire cela dans le premier livre de Samuel, les versets chapitres 20, 21 et 22. On voit la fuite désespérée de David, au cours de laquelle, par exemple, il va demander l'aide des sacrifices de Nob. Et les sacrificateurs lui ont donné du pain. Ils lui ont aussi donné l'épée que David avait prise à Goliath et qui était gardée dans cet endroit. Mais quand Saül a appris cette aide qui avait été donnée de manière innocente, Saül a fait tuer de manière impitoyable ses sacrificateurs et tous ceux qui étaient au présent dans ce lieu. David était désespéré, paniqué. Il a fui Israël et il a décidé d'entrer dans le pays des Philistins où se trouvaient les principaux ennemis d'Israël, en pensant que peut-être les Philistins allaient accueillir quelqu'un qui fuyait devant le roi Saül. David a fini à Gath, l'une des principales villes des Philistins. Mais quand il est arrivé, il a réalisé son erreur. Parce que Gath était la ville natale de Goliath. Alors imaginez les habitants de la ville qui fixent leurs yeux sur l'homme qui avait à lui seul renversé leurs espoirs de victoire en tuant leur grand champion. Et en plus de cela, ajoutant l'insulte à la blessure, il avait l'audace de porter l'épée de leur héros qu'il avait tué. Et loin d'accueillir David, qui s'était rendu compte qu'il a dû être fou pour venir jusqu'à Gath. Les serviteurs du roi Achish, du roi philistin, sont venus auprès du roi en exigeant la tête de David. 1 Samuel 21, verset 11, les serviteurs d'Achish lui dirent « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ?» Le texte nous dit que David a une grande crainte du roi Achish. On peut imaginer la scène quand les serviteurs du roi des Philistins ont mis leurs mains sur David. On peut imaginer que David a dû se dire « Mais j'étais fou pour venir ici ». Il a conçu son plan et il a agi comme cela. 1 Samuel 21, verset 13, « David se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes. Et il laissait couler sa salive sur sa barbe. » Et les Philistins étaient des personnes superstitieuses. Et ils croyaient qu'ils allaient être maudits s'ils blessaient quelqu'un qui était fou. La ruse de David a réussi à lui sauver sa vie, même si elle n'a pas sauvé sa dignité. Un moment embarrassant pour David. Mais le récit de la parole de Dieu nous rappelle que la Bible est honnête. La Bible nous dit la vérité sur le péché, sur la folie désespérée des mêmes de ceux qu'on considère comme étant les héros de la foi. Le récit dramatise aussi ce qui tend à se produire lorsque l'on prend les choses en main nous-mêmes, quand on cherche à se sauver par des moyens humains plutôt que de faire confiance à Dieu. Notre plan peut fonctionner. On va arriver à se dépêtrer, à se tortiller vers la sécurité, mais très souvent on va se dégrader dans le processus. Intéressant de noter que la Bible ne montre aucune trace de la prière de David pendant son voyage de Nob auprès des sacrificateurs jusqu'à Gath. Il n'est pas étonnant que David soit tombé dans une telle erreur. Mais sa disgrâce semble l'avoir ramené à ses sens. Et David était maintenant prêt à se tourner à nouveau vers le Seigneur. Il s'était éloigné de Dieu et tombé dans la folie. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu ne l'avait pas lâché. Et dans ce psaume 56, David se tourne vers le Seigneur dans la prière. Et la note d'action de grâce qu'on a à la fin du psaume montre que David a écrit ce psaume non pas pendant qu'il était à Gath, mais après qu'il soit reparti de Gath. Il était toujours désespéré. Il n'avait pas d'autre choix que de retourner sur les terres du roi Saül. La voix de la peur s'élève à nouveau dans sa gorge. Mais cette fois-ci, la peur ne le conduit pas à la folie ou à des stratégies humaines. David se souvient de Dieu. Il est conduit par sa crainte à se tourner vers le Seigneur dans la foi. Verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Et pour beaucoup de croyants trouvent qu'il faut connaître des situations de peur pour nous pousser à la foi, pour nous pousser à croire. Et Dieu nous place souvent dans des situations inconfortables, dans lesquelles on peut être troublé, dans lesquelles on peut connaître la peur, on peut être effrayé. Il le fait pour provoquer une réponse de foi. L'apôtre Pierre souligne dans sa première lettre que les épreuves viennent afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est 1 Pierre 1, verset 7. La réponse que Dieu désire de nous est celle que David montre dans ce psaume, dans ce verset 4 en particulier. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Et cela nous amène à la deuxième voie, la voie de la foi. La foi retrouvée de David donne ce refrain que nous avons dit, qui se trouve au verset 5 et puis qui se trouve légèrement altéré dans les versets 11 et 12. « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. » Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'ingrédient clé de la foi, c'est la confiance. La foi ne consiste pas simplement à consentir à des déclarations de vérité ou à l'idée que Dieu existe. Non, la foi, c'est la confiance. Faire confiance, c'est compter sur quelqu'un, compter sur quelque chose. Et dans ce cas-ci, c'est compter sur Dieu pour le salut. Et lorsqu'on fait confiance à quelqu'un, on est prêt à agir avec confiance. Avoir un objet de confiance va établir un rempart contre la peur. La foi de David voit Dieu et il trouve en lui une source fiable de protection, d'aide, de bénédiction. Et David, par son conséquent, n'a plus peur. On peut imaginer David en train d'écrire ce psaume, non pas seulement avec une plume à la main, mais avec l'épée de Goliath sur ses genoux. On peut le voir regarder cette arme puissante quand il écrit verset 12, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» L'épée de Goliath lui aurait rappelé son plus grand triomphe. Goliath avait terrifié tous les soldats de Saül à cause de sa taille de géant, à cause de sa force. Mais David, rappelez-vous, s'était levé, plein de confiance en l'Éternel. Il a terrassé le géant. Il a terrassé Goliath. 1 Samuel 17, verset 45 et suivant, David dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. C'est de cette façon que David a obtenu cette épée de Goliath, après avoir terrassé le géant, après lui avoir coupé la tête. David avait confiance, il avait fait confiance à Dieu. Il a regardé sur le champ de bataille, il n'a pas seulement vu le géant, il a vu le Dieu qui est plus grand que ce géant, qui domine sur toute chose. David se souvient qu'il a fait confiance à Dieu, qu'il s'est aussi humilié à cause de son incrédulité à Gath. Et David se ressaisit, il reprend la foi avec laquelle il avait vaincu auparavant. Verset 12, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Il y a une différence entre ce genre de foi et la simple fanfaronnade charnelle. David avait fait confiance en Dieu à cause de sa connaissance de qui est Dieu, qui il est, dans sa puissance, dans sa fidélité, dans son alliance, dans son amour. Le problème avec beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas trouvé un Dieu suffisamment grand pour leurs besoins. Les religieux ont cultivé des vues limitées de Dieu. Certains pensent que Dieu n'est qu'une conscience qui vient nous harceler, qu'il est un vieil homme qui ne fait rien, qu'il est comme un directeur distrait qui est trop occupé pour s'inquiéter de nous, qu'il est trop doux pour interférer avec les affaires du monde, ou qu'il est comme un Père Noël à qui on envoie nos listes de souhaits. Mais ces idées sont très éloignées de ce que la Bible nous dit au sujet de Dieu. Le seul vrai Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant, qui est omniscient, qui est éternel, qui est parfait dans sa sainteté, dans sa puissance, dans son amour. « Je suis l'Éternel, ton Dieu », dit l'Éternel en Ésaïe 43, verset 3. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » David connaissait, David faisait confiance à un Dieu qui domine le monde, qui prend soin aussi de ses enfants. Et David raisonne, si j'ai confiance en Dieu, si j'ai confiance en l'Éternel, que peuvent me faire des hommes? Ou comme le dit littéralement le verset 5, que peut me faire la chair? Que peut faire la chair en opposition à la divinité? Ésaïe 40, versets 6 à 8, toute chair est comme l'herbe, tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Et ce contraste nous explique pourquoi on doit étudier peut-être encore davantage les attributs de Dieu. Notre foi, comme la foi de David, n'est pas plus forte que son objet. Quand on sait qui est Dieu? Quand on connaît qui est Dieu, on constate que notre foi est rendue encore plus forte pour vaincre toute peur. Mais David ne faisait pas simplement confiance à Dieu. Il montre que une foi solide est fondée sur la parole de Dieu. Verset 5, « Je me glorifierai en Dieu ». En sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Bien sûr, dans le cas de David, la parole de Dieu inclut les déclarations que Dieu lui avait faites personnellement au travers des prophètes comme Samuel ou comme Nathan, dont il se souvenait. Il avait confiance dans ses œuvres, dans ses heures les plus sombres. Il aurait pensé aussi à la parole écrite de Dieu qui, à son époque, consistait au minimum dans le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, les livres de Moïse. David avait lu à propos de l'époque où Israël était face à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon qui arrivait sur le peuple d'Israël. Moïse a ordonné au peuple de faire confiance au Seigneur. Il a séparé les vagues de la mer Rouge, le peuple a pu traverser. Ceci et d'autres passages de la Bible auraient confirmé à David que Dieu sauve ceux qui l'invoquent avec foi. Les contributions de David dans les psaumes soulignent fortement que David avait compris cette leçon. Dieu, effectivement, sauve ceux qui lui font confiance. Et David résume sa compréhension de la foi dans la parole de Dieu dans un autre psaume, le psaume 22, verset 5, où il dit « En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. » Et aujourd'hui, nous, en tant que croyants, nous trouverons également courage en Dieu par le témoignage sûr de sa parole. Nous croyons, et c'est ce qui décrit, en fait, c'est ce qui définit un croyant, c'est ce qui définit un chrétien. C'est quelqu'un qui croit dans la parole de Dieu, qui croit dans l'autorité de cette parole et qui fait confiance à Dieu pour être son sauveur. Nous avons beaucoup de promesses qui nous exhortent, qui nous poussent à croire et à mettre notre confiance en Dieu. Un auteur explique ceci, il dit, il y a des « il va le faire » et des « il le fera » dans le trésor de Dieu, pour chaque situation. Il y a une abondance de promesses dans la parole de Dieu au sujet de la miséricorde, de la compassion infinie de Dieu, au sujet de sa disponibilité à recevoir tous ceux qui se repentent et qui croient, au sujet de sa volonté de pardonner, d'absoudre le plus grand des pécheurs, au sujet de son pouvoir de changer les cœurs, de modifier notre nature corrompue, au sujet des encouragements à prier, à écouter l'Évangile, à s'approcher du trône de la grâce, au sujet de la force dans le travail, du réconfort dans les difficultés, de la direction dans la perplexité, de l'aide dans la maladie, de la consolation dans la mort, du soutien dans le deuil, du bonheur au-delà de la tombe et de la récompense dans la gloire. Il y a une abondance de promesses dans la parole de Dieu qui nous exhorte à mettre notre confiance en Dieu. Et Dieu, David avait confiance en Dieu et en sa parole. Et pour nous, aujourd'hui, nous avons cette foi est concentrée sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur que David a vu de loin, le Sauveur en qui tous peuvent mettre leur confiance pour être sauvés, pour être réconciliés avec Dieu. Et là, même aussi dans les évangiles, nous avons toutes les promesses du Seigneur lui-même. Il promet le repos à l'âme fatiguée. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il donne confiance pour regarder au-delà de la tombe. Jean 6, verset 40. « Quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 14, versets 18 à 19, nous dit qu'il sera avec nous et qu'il nous conduira. « Je ne vous laisserai jamais pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Et de telles promesses et beaucoup d'autres promesses ont donné espoir et joie à un grand nombre de croyants. Quand ils ont fait face à la mort, ou quand ils ont fait face à la torture, à la persécution. Et nous aussi, dans nos épreuves, des dangers sans doute plus petits auxquels on est confronté chaque jour, on peut avoir cette même confiance que ceux qui nous ont précédés. Deux des plus grandes déclarations que le Nouveau Testament fait sur le Seigneur Jésus-Christ sont tirées des versets de ce psaume. Verset 14, remercie Dieu, parce que tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Il est probable que le Seigneur Jésus-Christ et ce verset à l'esprit, quand il déclare en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le Seigneur Jésus promet d'éclairer notre marche dans la vie éternelle quand on regarde avec lui, avec cette foi confiante. Et nous pouvons être comme David, qui était confiant de trouver un chemin vers la sécurité au milieu des dangers. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux reprend également cette affirmation tirée du verset 5, en Hébreux 13, versets 5 et 6, « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Et l'auteur de la lettre aux Hébreux écrivait à des croyants qui étaient tentés d'abandonner l'Évangile à cause de la persécution. Mais abandonner notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est se détourner de la seule aide qui soit plus grande que l'oppression du monde. Le Seigneur Jésus nous invite chacun à recevoir un salut qui est complet, qui est parfait, qui est sûr par la foi en sa parole. Il appelle les pécheurs, il leur offre le pardon. Aux faibles, il offre la force. Aux aveugles, il offre la vue spirituelle. Aux spirituellement morts, il offre la vie. Le Seigneur Jésus dit à son peuple que quoi que ce soit que ce monde peut faire à notre corps, lui, il préservera notre âme. On peut être affligé pour un moment dans ce monde. Notre corps peut souffrir, notre cœur peut être brisé. Mais les trésors éprouvés par l'homme mortel ne peuvent pas toucher les trésors éternels que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour le croyant, l'enfant de Dieu, tout est fait pour notre bien, parce que la peur fait place à la foi. Les peines nous rapprochent du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a versé son sang pour nous sauver du péché, pour nous sauver du monde, pour nous sauver de la condamnation. Et nous pouvons dire avec David au verset 12, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Troisième point, quand Dieu est grand, et le psaume 56 montre que lorsque la foi rencontre la peur, le croyant reçoit le courage pour vivre pour Dieu. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour honorer Dieu, faire en sorte que nos vies comptent pour son royaume. On a déjà parlé dans nos études des psaumes du réformateur allemand Martin Luther, un homme qui regardait à Dieu pour trouver l'aide dont il avait besoin. Luther était quelqu'un qui craignait Dieu et qui ne craignait pas les hommes. Il comprenait la sainte majesté, la grande majesté de Dieu, le sérieux qui accompagne les voies de Dieu, la gravité éternelle du jugement de Dieu. Et par rapport à ceci, les menaces de l'homme étaient insignifiantes, elles étaient pâles. Luther, avant sa conversion, était effrayé pour son âme et il est allé dans un monastère, il cherchait son salut en devenant moine. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, Luther ne pouvait pas accepter le système de justice par les œuvres de l'Église catholique romaine. Pourquoi ? Parce qu'il craignait un Seigneur, un Dieu grand, majestueux. Et dans son âme, Luther savait qu'aucune déclaration papale, aucune autre assurance de l'homme ne pouvait lui accorder l'acceptation devant le Dieu saint, devant un Dieu grand, un Dieu redoutable. Luther voyait dans la Bible combien son péché était grand. Il savait qu'il allait mourir dans le tourment s'il ne trouvait pas une vraie voie de pardon devant la justice parfaite, pure et inflexible du Dieu Tout-Puissant. Luther était terrorisé pour son âme. Mais en lisant, méditant la parole de Dieu, il a découvert l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ. En lisant la lettre de Paul aux Romains, chapitre 1, Ce passage, les versets 16 et 17, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et Luther a vu l'évangile comme étant assez grand pour répondre à la juste loi de Dieu, en fournissant la justice de Christ par la foi à tous ceux qui croient. Et les craintes de Luther, la peur de Luther a été transformée en foi quand il a compris la gloire de l'Évangile dans la croix du Fils de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et il a pris position là-dessus. Il n'est pas surprenant qu'une fois que Luther avait a su qu'il était justifié par la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, rien ne pouvait le faire déplacer de ce lieu de sécurité. Comme David, la foi de Luther a vaincu sa peur. Après que Luther ait écrit ses premiers livres contre le catholicisme romain, il a été appelé à comparaître devant la diète de Worms en 1521 avec la menace du bûcher. Et devant les appels à se rétracter de ses enseignements, Luther a répondu « Je dois marcher dans la crainte du Seigneur. À moins que je ne sois convaincu par les Écritures et par la simple raison, pas par les papes et les conciles, car ils se sont contredits, ma conscience est captive de la parole de Dieu. Aller contre ma conscience n'est ni bon ni honnête. Je ne peux ni ne veux renier. Je ne puis autrement. Que Dieu me soit en aide. » Voilà la foi courageuse dont on a besoin aujourd'hui. Une foi qui se trouve au même endroit que Luther, où Luther et David l'ont trouvé, dans la parole de Dieu. Et de plus, cela compte autant quand nous craignons le Seigneur dans les petites affaires de notre vie, que cela compte dans les grandes actions commises par des hommes comme Martin Luther. Quand on refuse de céder aux mœurs sexuelles d'une société pervertie, quand on proclame le Seigneur Jésus-Christ face au ridicule, quand on refuse de tricher ou de mentir, quand on revendique nos normes, qu'on poursuit nos buts, non pas selon les règles d'une culture décadente, mais à partir de la parole de Dieu. Alors Dieu est loué dans le ciel et sur la terre. Et faisant face à la peur avec foi, nous pouvons dire ce que David dit au verset 12. « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Si on doit marcher avec intégrité devant Dieu, faire une différence dans notre temps, ce sera avec le courage qui vient d'une foi intrépide, et c'est le dernier point. Une foi, la foi qui triomphe de la peur. Et on peut appliquer le psaume 56 à travers trois observations finales. La première, c'est que la confiance est quelque chose que nous apprenons au cours de notre vie. David a commencé ce psaume par la voie de la peur. La foi se présente au verset 4, mais arrivé au verset 6, la peur a repris le dessus. Elle laisse la place à la foi au verset 11. Et nos vies avancent de cette manière. La peur et la foi luttent ensemble. Dans cette période de la vie de David, alors qu'il fuyait d'un danger à l'autre, il a été mis à l'épreuve. Et cela a construit la foi de David jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte qu'avant, comme l'apôtre Pierre l'écrira plus tard. Et comme on le verra, Dieu voulant, dans le psaume suivant, le psaume 57, qui a été écrit au cours de la phase suivante de sa fuite, cela va atteindre une hauteur encore plus grande. Dans ce psaume 57, le refrain dit « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Le but de notre vie et de grandir dans la foi, d'échapper à nos peurs et de glorifier Dieu ce dont nous ferons, ce que nous ferons de manière parfaite quand nous serons avec lui. Et cette croissance de la peur à la foi passe par une communion avec Dieu. Les versets 9 à 10 montrent l'importance de la prière dans le rétablissement de la foi de David. David s'écrit : Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. David demande au Seigneur non seulement d'enregistrer ses problèmes, de garder une trace de ses problèmes, mais de recueillir ses larmes dans une outre, dans une bouteille. Il pleure sur l'épaule de Dieu, si on peut utiliser cette image. Bien qu'il se sente seul, il sait que Dieu se soucie de lui. Et c'est dans la prière, il vient se poser sur l'épaule de Dieu. Parce que David se souvient, il se souvient de la force du bras de l'Éternel, il se souvient de la compassion qui est dans le cœur de Dieu. Il vient se poser dans la prière, il vient se poser sur l'épaule de Dieu. La deuxième observation, elle vient du verset 13. « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. » Cette déclaration révèle ce qui se passe lorsque la foi triomphe de la peur. David est délivré, il passe du désespoir à l'action de grâce. Il attend ce jour, il attend avec impatience ce jour où il pourra retourner au tabernacle pour offrir des actions de grâce. La marque d'une foi active, c'est toujours ce désir de louer le Seigneur, de lui apporter une action de grâce. Le signe le plus sûr que nous faisons confiance à Dieu, en particulier au milieu des épreuves, c'est que nous avons dans notre cœur toujours une raison de le remercier, une raison de le louer, une raison de reconnaître qu'il est tout pour nous. La troisième observation, le psaume se termine par la volonté, la détermination qui viennent à ceux qui ont appris à faire confiance au Seigneur. C'est Franklin Roosevelt qui a dit « La seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même. » Et c'est certainement vrai pour ceux qui font confiance en Dieu. On peut laisser les circonstances, les dangers entre les mains de Dieu. On peut surmonter notre peur par la foi en lui et décider de le servir toute notre vie. C'est ce que David a fait, il a résolu de marcher devant Dieu à la lumière des vivants. Est-ce qu'on peut se réjouir avec David que le Seigneur Jésus-Christ a délivré mon âme de la mort, qu'il a gardé mes pieds de la chute? Si c'est notre témoignage, alors notre résolution devrait être la même que celle de David. David venait de sortir d'un des épisodes les plus bas de sa vie, gouverné par la folie, par la peur, mais en se tournant vers Dieu, en se tournant vers la parole, David est entré dans une nouvelle phase caractérisée par ce désir de marcher devant l'Éternel. Nous aussi, étant délivrés de la peur pour croire en Dieu et croire dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons avoir confiance dans sa parole et nous réengager avec lui. Peu importe comment on a trébuché, comment on a chuté dans l'incrédulité, on peut être relevé par sa grâce pour marcher devant Dieu à la lumière des vivants. J'ai déjà cité ce verset de Jean 8, verset 12. Le Seigneur dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Mais il aura la lumière de la vie. Et pour nous, la peur est vaincue en suivant le Seigneur Jésus-Christ, qui promet à tous ceux qui lui font confiance qu'ils ne marcheront pas dans les ténèbres. Regardons au Seigneur Jésus-Christ par la foi, pour être renouvelés par son esprit, pour être lavés, purifiés, En le suivant, on découvrira que notre peur fera place à une foi conquérante, que la lumière de sa vie brillera sur chaque partie sombre de notre chemin. Merveilleux psaume de David, un exemple qu'il nous laisse, que de nous aide dans nos incertitudes, dans nos peurs, à suivre l'exemple de David, à regarder à Dieu, à regarder à notre Seigneur Jésus-Christ, à mettre notre confiance en lui, à avancer en comptant sur lui, qu'il nous aide et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.